Bonjour, merci d'être avec nous, politologue, chercheur associé au CERSA, Centre d'études et de recherche en sciences administratives de l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Olivier Roucan, on entend beaucoup depuis hier que la politique française serait entrée dans une nouvelle ère avec ce genre de méthode de porno-divulgation, au-delà du fait que ce ne soit pas vraiment rassurant. Est-ce exact, selon vous, sachant que la condamnation hier était plutôt unanime ?
D'abord, c'est la société qui est entrée dans une nouvelle ère et comme on sait, la politique n'est que le miroir de ce type d'évolution sociétale. Ensuite, comme vous le faites remarquer, il y a quand même en France, par rapport à ces évolutions, j'allais dire une certaine lenteur due à une culture qui dissocie assez strictement les affaires intimes et privées des affaires publiques. Et de ce point de vue, bon, la réprobation à la fois des politiques, mais aussi des commentateurs sur ce type de pratique est assez générale. La loi est là, vous l'avez rappelé, pour sanctionner éventuellement. Donc on peut dire qu'il y a quand même des garde-fous, mais il ne faut pas se leurrer. Les pratiques sociales évoluent et vont dans ce sens du fait notamment des réseaux sociaux. En même temps, comme ça a tendance à devenir courant, ça se normalise et finalement on peut se demander si à terme ce type de pratique aura beaucoup d'impact sur, j'allais dire, les décisions politiques qui seraient prises.
Mais quand l'activiste russe Piotr Pavlansky, qui est derrière tout ça, revendique, je cite, un acte politique, est-ce que c'est vraiment politique ?
Activiste russe, il est sans doute, lui, dans son mental, en effet, en train de commettre un acte politique, mais encore une fois, au sens peut-être français du terme, ça n'a pas tout à fait cette dimension, sans doute. On n'est pas aux États-Unis et qui plus est, cette personne va aussi devoir répondre de son acte et on va essayer de comprendre d'où ça vient. Donc, c'est à relativiser.
Certains font aussi le procès de l'anonymat et des réseaux sociaux. Sauf que là, hormis la jeune femme, personne n'est anonyme, finalement. Et les réseaux sociaux, encore une fois, ne sont qu'un vecteur. Ils ont besoin d'une matière pour faire ensuite caisse de résonance.
Oui, ils ont besoin d'une matière, ils ont besoin d'acteurs qui donnent un sens à leur pratique. Et les réseaux sociaux noient dans une sorte de masse parce que c'est un flux continu, le réseau social. Donc, on va en parler 1-2 jours et puis ensuite, autre chose prend le relais, le buzz est continu sur des tas de choses. C'est pour ça aussi que la décision de Benjamin Griveaux de se retirer suite à ce type d'affaires traduit un choc émotionnel personnel, mais sur le plan politique est peut-être disproportionné. C'est une question qu'on peut se poser.
Alors justement, revenons à la politique au sens strict, même si ce qui s'est passé n'a pas grand-chose à voir avec le reste de la campagne, ce retrait de Benjamin Griveaux marque la fin abrupte d'une campagne qui n'a jamais vraiment fonctionné.
Oui, c'est ça. C'est là où il y a peut-être, un sens à ce retrait. C'est que de toute façon, cette campagne était, c'est le moins qu'on puisse dire, mal partie. Et le découragement vient au bout d'une chaîne continue de ratage, de commentaires globaux négatifs et de l'impasse dans laquelle se trouvait une dynamique de campagne.
Nous sommes dans une séquence, en général, depuis plusieurs semaines, qui est très difficile au niveau national pour La République En Marche. Il y a eu ces dissensions entre exécutifs et parlementaires. Il y a eu la séquence du deuil parental. C'est un moment compliqué pour le parti présidentiel.
C'est un moment compliqué pour le président parce que le parti présidentiel, le problème depuis 2 ans et demi est de savoir s'il existe vraiment. Et c'est le problème aussi de ces municipales et de la préparation de ces municipales, puisqu'on le voit bien dans des tas de villes, La République En Marche part en ordre dispersé, ne sait pas parfois qui soutient vraiment. Donc il y a un problème de solidité d'existence de ce parti, on le voit ici avec cette campagne. se termine en cours de route. Mais tout ceci remonte au président, et on voit aussi le manque d'existence de l'Assemblée. Vous avez dit tous les problèmes qui s'y posent et qui surgissent, notamment au cours de ce débat sur les retraites. Donc le problème, c'est que le président est assez seul pour organiser la suite, pour tourner la page. Toute l'impulsion vient d'en haut, et il manque ce président d'écran de protection, le parti, l'Assemblée.
Alors, dernière question, Olivier Roucan. Le parti majoritaire doit désormais désigner un candidat un peu in extremis. Évidemment, tout ça n'était pas prévu. Ils se réunissent aujourd'hui, c'était le cas hier, ce sera en tout cas à lundi au plus tard, c'est ce qu'annonce La République En Marche. Quel que soit ce candidat, il ne s'agira plus de gagner Paris maintenant, mais de sauver l'honneur, entre guillemets.
Bon, c'est toujours difficile, avant que les électeurs de se prononcent, de dire la
parce qu'eux-mêmes le disent en off, hein, que ça va être très compliqué,
oui,
de s'imposer.
D'accord, oui. Mais enfin, ce sera très difficile, de toute façon, dans la mesure où, dès le départ, ils partent en ordre dispersé, avec énormément de batailles intestines, alors que c'est un parti tout neuf, et c'est ceci qui n'est pas normal. Quand c'était arrivé au RPR, au moment de 2001, entre Philippe Seguin, Jean Tiberi et d'autres encore, qui avaient cette division, c'était en fin de parcours, hein, après plusieurs mandats de Jacques Chirac, qui était devenu président. Là, ça arrive tout de suite. Mmh. Et c'est ceci qui est le signe d'une fragilité très préoccupante.
Merci beaucoup, Olivier Roucan, d'être intervenu sur France Info. Je rappelle que vous êtes politologue, chercheur associé au CERSA de Panthéon, l'Université Paris de Panthéon-Assas. Je rappelle également votre ouvrage aux éditions François Bourin, En finir avec le président.